bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode pour la nouvelle année, donc déjà bonne année à tous. Je sais pas si on a le droit de le dire cette année, mais je le dis quand même. Bon, j'espère que vous avez bien profité de votre semaine de fête. Alors je sais pas si vous avez pu faire ça entre amis ou pas. Bon, pas de jugement, hein. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. En tout cas, j'espère que vous en avez profité pour vous détendre, pour essayer de trouver un petit moment de récupération, de plaisir, etc. Et que vous repartez avec un tas de motivation. Bon, moi, c'est mon cas, comme chaque année, finalement. Hein, je trouve d'ailleurs que les fins d'année sont un petit peu... Avec le temps, les fins d'année sont de plus en plus lissées sur le reste de l'année. Alors, je sais pas si c'est mes habitudes de vie ou autre, mais je trouve que par le passé, j'avais tendance à avoir plutôt un peu d'anxiété en fin d'année. Et ça a tendance depuis quelques années maintenant à se lisser, c'est-à-dire que je n'ai plus ce sentiment en fait de d'anxiété de fin d'année. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Est-ce que cette année n'est pas passée trop vite et tout? Je sais pas, je l'ai plus ça. En tout cas, je pense que c'est aussi dû au rythme. Donc, vous savez, un peu mon mantra, le travail paie toujours. Je pense que ça, quand on est dans une routine où on produit en permanence, où on s'entraîne, où on mange sainement, etc., je pense que ça crée une forme de dynamique dans le style de vie, et ce qui permet de rester un petit peu connecté, focus et plutôt en bonne forme. Voilà. Bon, alors, pour cet épisode, pour cette nouvelle année... j'ai récupéré quelques petites news que je vais traiter avec vous et une question d'un auditeur. Mais avant de démarrer, je voulais juste vous dire que j'ai proposé au VIP ce dimanche une diète sans viande. Alors vous allez me dire, ça y est, il passe au sans viande. Pas du tout. C'est juste que j'ai répondu à une question. Qui en regroupe en fait des tonnes et des tonnes de personnes qui me disaient, est-ce que dans ta formule VIP, tu proposes un régime sans viande? Bah en fait, j'en proposais pas réellement parce que je partais du principe que c'était relativement simple à mettre en place. Et en fait, quand j'ai pu parler avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte que les réflexes qu'avaient les gens quand ils voulaient supprimer la viande étaient mauvais, mais voire plutôt très mauvais. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, au lieu de leur faire un régime brut sans viande comme ça, je vais leur proposer plutôt une approche qui a un but. Le but étant, en début d'année, déjà de se libérer des excès des fêtes. Donc, voilà. Donc, en fait, le régime allie libération de l'excès des fêtes, mais aussi sans viande. Mais je l'explique pourquoi un régime sans viande et pourquoi il est intéressant, en fait, en début d'année. J'explique les alternatives, on va dire, saines, parce qu'on peut faire un régime sans viande et manger très mal. Et c'est d'ailleurs le plus commun. Des personnes qui arrêtent de manger de la viande se mettent à manger beaucoup, beaucoup d'aliments transformés. Notamment, vous savez, tout ce qui est protéines végétales et tout ça. Et je vous montre par A plus B, en gros, que vous pouvez faire très bien sans viande, mais également, je vous parle de thunes, c'est-à-dire de l'argent, du budget course quand on mange sans viande. Et vous allez voir que des protéines que vous jugez chères sont finalement au kilo moins chères que la viande. Et donc voilà, donc il y a un protocole que moi je recommande pendant 15 jours pour essayer de se libérer un petit peu des excès des fêtes. Et le menu, donc vous avez 7 jours de menus différents de manière à pouvoir vous programmer la semaine avec des idées et tout ça, et bien plus en fait, pas mal de données pour vous mettre en selle avec cette diète fitness, on va dire, qui n'impactera pas votre masse musculaire, voire au contraire qui pourra l'aider à la maintenir, voire à la développer, et surtout vous libérer du gras, parce que c'est ce que vous avez pris, comme tout le monde, un petit peu pendant les fêtes. Donc le lien est dans les notes de l'émission, si vous voulez aller voir et suivre ce protocole-là. Je crois qu'il y a, la vidéo elle doit faire 45 minutes, et vous avez à peu près une quinzaine de pages en PDF en support, voilà. Donc c'est en note de l'émission, un petit lien qui s'appelle régime sans viande, la diète complète pour sportifs, et vous avez le petit lien pour y accéder. Alors première actu de la semaine, ça s'appelle, alors c'est un article de la nutrition.fr qui s'appelle l'implication de l'industrie agroalimentaire dans la recherche biaise les études. Donc j'ai surligné dans cet article les résultats de l'étude montre que 13,4% des articles analysés font état d'un lien avec l'industrie agroalimentaire. Certaines revues ont une plus grande proportion d'articles concernés par une participation de l'industrie par rapport aux études autres. Celles qui ont un lien, alors attendez, je remets. Donc celles qui ont un lien avec l'industrie sont près de 6 fois plus susceptibles de rapporter des résultats favorables aux intérêts de l'industrie agroalimentaire, 55,6% contre 9,7%. Ce sont les fabricants d'aliments transformés qui sont les plus présents dans les travaux de recherche, suivis par l'industrie des compléments alimentaires. Ces résultats viennent s'ajouter aux preuves déjà existantes, que l'implication de l'industrie agroalimentaire dans la recherche peut biaiser d'une part les programmes de recherche et d'autre part les conclusions des études. Alors je sais que je parle à des convaincus. Évidemment, la science, donc les informations scientifiques, les études scientifiques servent énormément les propos marketing des grandes marques. C'est-à-dire que, un petit peu comme la politique, de s'appuyer sur la science, ça fait taire tout le monde. À petite échelle, c'est un petit peu comme, vous savez, dans notre quotidien, nous. Alors avant, il y a des années, c'était il y avait quand on avait une question, une problématique ou des débats ou quoi, on en parlait à l'église ou aux hommes d'église, et en fait quand ils disaient quelque chose, hop, c'est bon, coup de marteau, on suivait. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus le médecin généraliste. Quand vous débattez en famille de telle ou telle pratique pour la santé, certains vont être pro médicaments, d'autres vont être pro style de vie, etc. Et le coup de tampon, le coup de marteau, ça va être le médecin généraliste. Oui, mais il est médecin, il m'a dit que c'était bien de faire ça, donc je fais ça. Et en fait, il y a un petit peu ça aussi dans les études. Par exemple, si jamais on vous dit que manger du jambon blanc, c'est pas dangereux pour la santé, regardez, les études le montrent. Et en fait, sous couvert des propos de la personne, de l'intéressé, les études vont venir un petit peu trancher, déresponsabiliser aussi, parce que ça déresponsabilise celui qui rédige le texte marketing du paquet de jambon ou du paquet de gâteaux ou autre. Et il dit non, mais moi, il n'y a pas de problème. Regarde, les études disent que c'est bon. Donc voilà. Ben, en fait, on oublie un petit peu tout ce qui est négatif pour faire ressortir que ce qui est positif dans les études. C'est normal. En fait, on va se servir de toutes ces choses-là. Et ensuite, c'est pareil, j'en avais parlé dans d'autres articles, mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous percevez en fait, le marketing, c'est assez simple à comprendre. Tout ce qui va dans le sens de la glorification, de la mise en avant du produit, va être inscrit sur le packaging. Donc, par exemple, si vous avez un label, donc label rouge, bleu, blanc, cœur, etc., s'ils l'ont, ils vont pas s'en priver de le mettre, parce que ça, c'est un argument marketing puissant. Donc, en fait, plus vous voyez de choses comme ça, plus ben voilà, ça va être quelque chose qui va être attractif, synonyme de bonne qualité, etc. Mais à l'inverse, si vous en voyez aucun, ne vous dites pas « oui, mais ça peut être bien, mais ils ne l'ont peut-être pas marqué ». Non. En fait, s'ils l'avaient, ils l'auraient marqué. Il faut toujours vous dire les choses comme ça. Ensuite, il y a autre chose. Il parle là des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est un petit peu plus en mode sous-marin. C'est-à-dire que nous, on voit sous l'œil du pratiquant ou de la pratiquante de fitness, donc le monde du complément alimentaire, on le voit sous cet angle-là. Mais en fait, il est beaucoup plus important que ça. Et dans les compléments alimentaires, il y a énormément de dérives. C'est-à-dire que la moindre petite étude qui montrerait que c'est un peu mieux qu'un placebo, donc tel type de complément alimentaire, ça va être mis en avant. Donc de très grandes marques vont s'en servir pour baser leur argumentaire sur la science, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est 100% efficace, mais qu'il y a eu beaucoup de recherches faites là-dessus. Il faut toujours s'interroger sur le pouvoir, en gros, des études, sur le bilan, en tout cas, marketing, de vente, etc. Là, en tout cas, ça a été montré dans l'article. 13,4% des articles analysés font état d'un lien avec l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, vous pouvez vous dire que on est loin du vous savez, j'ai pas envie de dire 50 millions de consommateurs, mais vous savez, vraiment des gens indépendants qui viendraient mettre leur nez dans ce qui se fait dans les industries et tout ça pour voir la réalité. En fait, ils se sont dit, bon, ben ça c'est une problématique, comment la corriger? Eh ben, on va utiliser des chercheurs. On va regarder ce qu'ils font, et puis ceux qui produisent les études qui vont le plus dans notre sens, eh ben on va les mettre en avant. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément payé les chercheurs, mais ça veut dire qu'ils vont s'intéresser plus favorablement au groupe de chercheurs qui trouvent des choses qui vont dans le sens de leurs produits, hein, finalement, des ventes et tout. Donc le but de partager avec vous cette donnée, c'est pas de vous inquiéter, c'est pas de vous dire de toute façon c'est perdu d'avance. En fait, vous dire que la seule solution, la seule qui restera la seule pour vous démarquer, pour rester au-dessus, pour ne pas vous faire avoir, pour pas être victime de biais comme ça, c'est d'avoir de la connaissance. La connaissance, c'est vraiment ce qui vous met à l'abri, c'est un petit peu le parapluie contre les conneries. Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se fait, que ça soit dans les pubs et tout, on voit que c'est affirmé avec un tel aplomb, avec une telle assurance par certaines, enfin parfois des acteurs, parfois des gens qui sont payés pour faire de la publicité. Donc ça va être des professionnels de la publicité, des professionnels des acteurs, donc qui vont vous présenter le produit et tout ça. Il y a une telle assurance et tout qu'on y croit finalement. Et puis ils vont appuyer avec des bons arguments scientifiques et tout, donc du coup c'est bon, on va être complètement séduit. La problématique, c'est qu'on le sait bien aujourd'hui, aucun complément alimentaire n'est miraculeux, et on le sait aujourd'hui aussi que les produits transformés et tout ça, c'est pas bon. Donc on peut faire ce qu'on veut avec des études, la réalité montre que c'est comme ça, et seules les personnes qui ont des connaissances arrivent à ne pas se faire avoir, parce que justement ils ont les fondamentaux. Donc voilà, ça c'était le premier article que je voulais partager avec vous. Le deuxième, qui est plus basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Le titre s'appelle « Faut-il s'inspirer de ceux qui ont réussi ?» C'est un article de Cerveau et Psycho. Et l'introduction, c'est « Nous aimons nous inspirer des personnes qui ont du succès en imitant leur méthode. Pourtant, cette approche est victime d'un biais. Personne ne parle de tous ceux qui, en utilisant les mêmes méthodes que ceux qui ont réussi, ont échoué. C'est pourquoi il serait sans doute plus utile de s'intéresser à ces derniers, donc à ceux qui ont échoué. » Vous savez, on est dans un monde où il y a même des chaînes YouTube qui reprennent les discours des grands, genre Steve Jobs, Jordan Peterson, qui c'est qui a encore, on va prendre des stars de cinéma, on va prendre des Elon Musk, etc. Et on va en faire des petites vidéos, les traduire et pour motiver les autres. C'est la mode, beaucoup de livres sortent là-dessus, ça marche énormément. Personnellement, j'ai lu Steve Jobs, j'ai lu Elon Musk, j'ai lu d'autres biographies de d'autres personnes, mais beaucoup parlent de travail difficile, parlent de sacrifice, parlent de toutes ces choses-là. Mais vous allez voir dans la suite de l'article que c'est pas forcément en fait un chemin à suivre obligatoirement. Alors, je reprends les citations de l'article. « Ainsi, à étudier en détail les stratégies des vainqueurs, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'ils ont réussi. Encore faut-il s'assurer que les perdants n'ont pas appliqué la même méthode. Malheureusement, ces derniers n'écrivent pas de livres et ne sont jamais invités sur les plateaux de radio ou de télévision. Ah oui, pour un Elon Musk, il y a combien de personnes derrière qui ont tenté et qui n'ont pas réussi? Donc peut-être qu'ils ont fait exactement la même chose que lui, peut-être qu'ils ont eu le même mode de vie que lui. Donc c'est-à-dire enfance plus ou moins difficile, travail dur, beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de lecture quand il était enfant. Enfin bon, bref, tout ce que peut avoir fait cet homme-là. Et finalement, ils n'ont pas réussi, mais on ne les entend pas parce qu'ils sont invités nulle part. Pourquoi ils sont invités nulle part? Parce qu'ils n'ont aucune portée, parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils n'ont pas de réussite à montrer. Je continue mes citations. Donc, un exemple célèbre concerne les impacts de balles sur les avions rentrant dans les avions de combat qui rentrent durant la Seconde Guerre mondiale. Certains experts proposèrent de blinder davantage les endroits touchés par les balles, alors que c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait renforcer les zones où l'on ne trouvait aucun impact, puisque ces avions-là avaient pu revenir à leur base, au contraire des autres. En gros, en fait, quand un avion rentrait avec des impacts de balles, les experts voulaient blinder ces endroits-là parce qu'ils sont des beaux, bah c'est ici qu'ils se font tirer dessus, donc on va les blinder. Mais non, en fait, puisque eux sont rentrés, bien qu'ils avaient pris des balles à cet endroit-là, ça veut dire que ça ne pose pas de problème, en fait. Et donc, du coup, ceux qui ne sont pas rentrés, c'est ceux certainement qui se sont fait shooter à d'autres endroits. Donc, en fait, il faut renforcer les autres endroits. Vous comprenez la différence? Et c'est pour ça qu'il faut toujours, normalement, interroger et s'inspirer de ceux qui ont échoué. Parce que ceux qui ont échoué, ils ont probablement tout fait comme les vainqueurs, sauf qu'il y a quelques petites choses où il y avait des faiblesses et qu'on n'a pas pu identifier parce que justement ils n'avaient pas la portée médiatique et ils n'étaient pas là pour le montrer. Soit ils étaient morts, soit ils étaient ils ont fini SDF ou ils ont fini incognito et donc du coup personne ne les a sollicités. Ce que je veux dire dans cette partie du podcast, c'est pas qu'il faut arrêter de s'inspirer de ceux qui ont réussi et tout. Je sais que c'est un puissant moteur de désir et de motivation. Mais par contre, il faut aussi s'intéresser aux échecs, aux personnes qui n'y arrivent pas. Donc par exemple, dans le monde du fitness, de prendre exemple sur les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui pourtant regardent les mêmes vidéos que ceux qui y arrivent et qui pourtant ont le même appareil de muscu, ont le même abonnement à la salle, les mêmes compléments alimentaires et presque la même diète que ceux qui y arrivent. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Eh bien, faut creuser, faut chercher à analyser. Moi, j'ai la chance avec mon travail de faire beaucoup de consultations, etc. Donc je vois l'envers du décor, je vois l'envers de ceux qui n'y arrivent pas et d'essayer de comprendre pourquoi ils y arrivent pas et les mettre sur une voie où ils vont y arriver. Mais pour quelqu'un du quotidien comme vous, qui vous n'avez pas accès forcément à beaucoup de données de ce côté-là, eh ben faut observer dans le quotidien, ben, le vôtre déjà, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous n'y arrivez pas. Et beaucoup de personnes souvent négligent l'intégralité d'un domaine. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans le monde du fitness, dans le style de vie. Moi, je réunis plusieurs domaines. Donc il y a l'entraînement, évidemment, il y a la nutrition. Il y a le style de vie, donc dans la vie de tous les jours, donc être actif ou être plutôt sédentaire. Et il y a la capacité, en fait, à durer. Donc la capacité à durer, c'est être capable de reproduire tous ces bons réflexes pendant un mois, deux mois, six mois, un an, 10 ans, 20 ans, etc. Et si il y a le sommeil également, il y a plein d'autres petites sous-catégories comme ça, mais si une est totalement négligée, il se peut que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que des personnes ne vont pas y arriver, mais ça veut dire que si une personne n'y arrive pas, en négligeant une de ces catégories, c'est probablement la raison pour laquelle elle n'y arrive pas. La problématique, c'est que beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas se basent sur des personnes qui ont réussi sans faire attention à ce genre de choses. Donc, je prends un exemple plus concret. Admettons, vous mangez super bien, vous avez un travail actif, vous vous entraînez intensément. Bref, vous avez plutôt quasiment tout réussi. Par contre, vous avez un mauvais sommeil. Vous avez un sommeil désastreux et donc du coup, ça vous pose problème. Mais vous avez comme contre-exemple un athlète qui a des super abdos et tout, qui fait tout comme vous et qui dort mal aussi, qui dit « moi j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, je dors très peu toutes les nuits, je sors d'ailleurs le soir entre amis, je me couche tard, je me lève tôt ». Bon bref, voilà. Donc du coup, vu que vous avez cet exemple, vous vous dites « c'est possible vu que lui il y arrive ». Ouais, mais non en fait. Lui y arrive parce que probablement il y a quelque chose qui diffère avec vous qui fait que lui ça ne pose pas de problème au niveau physique. Ça veut pas dire que ça pose pas de problème réellement, donc au niveau biologique, au niveau mental et tout ça, mais par contre au niveau physique ça lui pose pas trop de problème. Mais vous, en fait, ça peut poser problème. C'est-à-dire que vous, ça se trouve, il est possible que en freinant un petit peu la négligence sur le sommeil, donc en augmentant un petit peu votre qualité de sommeil, vous y gagneriez et vous pourriez peut-être réduire, peut-être, je sais pas, un peu l'impact ou la fréquence d'entraînement, et ça changerait rien pour vous, alors que l'autre, ça lui changerait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on recopie les vainqueurs, ou en tout cas ceux qui ont réussi, parce qu'ils n'ont pas les mêmes faiblesses que nous et pas les mêmes points forts que nous. C'est-à-dire que eux, l'entraînement va avoir énormément d'impact sur tout. Donc, c'est-à-dire que le fait de s'entraîner, ça va être hyper, hyper moteur pour leur développement. D'autres, ça va être la nutrition. D'autres, ça va être la récupération. Et c'est vraiment très différent. Et comme en parlait l'article là, c'est que ceux qui échouent ne sont pas là pour en parler. Et c'est intéressant, ça serait intéressant d'avoir des retours de personnes qui diraient ben voilà, moi pendant des années j'ai pédalé dans la semoule parce que j'ai voulu recopier ceux qui y arrivaient et j'y arrivais pas jusqu'au jour où j'ai compris que ma problématique résidait ou dans le sommeil ou dans le style de vie ou alors dans une forme d'alimentation que je pensais être la bonne et qui pourtant ne l'était pas. Vous savez, moi, par exemple, pendant des années, je me suis entraîné en muscu. J'ai mangé comme on montrait de manger, c'est-à-dire pas mal de calories, pas mal de protéines et tout pour prendre de la masse musculaire et tout. Et on me disait que si je mangeais pas mal de protéines, que je m'entraînais suffisamment, que je dormais bien et tout, j'allais avoir un bon physique et à terme que j'allais perdre du gras et prendre du muscle. La réalité, c'est que j'ai pris du muscle, mais j'ai pas perdu de gras. Donc cette diète-là, contrairement aux quatre, on était quatre en tout, donc à mes trois autres potes qui s'entraînaient avec moi, cette technique-là marchait pour eux. C'est-à-dire qu'ils prenaient tranquillement du muscle et ils perdaient un petit peu de gras. Moi, ça marchait pas. En fait, je prenais du muscle, mais je perdais pas de gras. Donc du coup, soit je restais à recopier ce qui arrivait, c'est-à-dire mes potes, eux, ils y arrivaient. Donc si je suivais ce qu'ils faisaient, chez moi ça ne marchait pas. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me disais, je suis une exception de la nature, j'y arriverai jamais. Ou est-ce que je me remettais en question et je me disais, ok, eux ils en prennent peut-être une nationale et moi il faut que je prenne une départementale, il faut que je prenne une autre route. Ça marche pas pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et de me dire, ok, l'entraînement et tout, ça a l'air de bien fonctionner pour moi puisque je prends de la masse musculaire, je suis relativement fort sur les barres et tout par rapport à mes potes. J'étais plutôt fort par rapport à eux. Bon, j'étais plus gras aussi. Mais je remettais moins en cause l'entraînement. Par contre, j'ai commencé à remettre en cause ce que je mettais dans mon assiette. Et le jour où j'ai commencé à faire ça, à oublier un petit peu de recopier ceux qui réussissaient, et ben à me poser un peu plus de questions et à m'enrichir au niveau des connaissances et tout ça, c'est là que j'y suis arrivé. Donc c'est de mes échecs que j'ai appris. Donc je me suis inspiré de mon échec, donc de la façon... si vous voulez, moi j'aurais rien eu à apprendre à cette époque-là à quelqu'un qui aurait voulu prendre de la masse musculaire sans graisse, puisque moi je n'y arrivais pas. Donc du coup le discours que j'aurais pu avoir aurait été tronqué. Je pourrais pas dire ouais il fait ça marche, puisque sur moi ça ne marchait pas. Aujourd'hui je peux, puisque j'ai trouvé quelque chose qui marchait, mais ça n'a pas été en faisant ce que font ceux qui réussissent. Donc je sais pas si j'arrive à être clair, à bien me faire comprendre, mais en tout cas j'aime bien cet article dans le sens où il faut plus regarder ce qui se passe dans l'ombre, donc chez toutes les personnes qui n'y arrivent pas, pour en tirer des vraies leçons, parce qu'il y a un gros facteur chance, un facteur hasard chez ceux qui réussissent. Si on enlève, enfin, il faut pas enlever tout le travail et tout qu'il y a derrière, évidemment. Mais il y a aussi un facteur de hasard, en fait, une forme, comme je dis souvent, d'alignement des planètes. Il y a des choses où ils sont responsables, donc c'est-à-dire le travail, la régularité et tout. Mais il y a des choses où ils sont moins responsables, qui va être la génétique, qui va être, je sais pas, peut-être les habitudes de vie ancrées depuis des années qui ne demandent plus aucun effort pour eux. Donc voilà, terminé pour cet article, je le trouvais intéressant. Et on va passer à la question de l'auditeur, donc nouvelle année, nouvelle question. La question, elle est ici. Alors, je la lis à haute voix. Zut, je l'ai perdu. Ah non, elle est ici. Alors, bonjour Théo, merci tout d'abord de partager gracieusement une partie de travail et surtout, continue. Bon, merci à toi. Je te pose le décor de la question. Je suis kiné à mon compte, Je m'entraîne en musculation 3 fois par semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche, à jeun le matin à raison de 45 à 50 minutes, sur la base des séances d'un de tes programmes Hard Reset pour les mouvements. Donc pas forcément le même nombre de séries et les temps de repos. Je fais aussi du cardio, donc footing ou trail, 10 à 12 km ou vélo de route, 50 à 70 km, 2 à 3 fois par mois, à la place d'une séance de musculation du week-end selon la météo. Mon objectif est plutôt orienté perte de masse grasse. Je suis à 20% de masse grasse, 76 kg pour 1m75. Entretien de la musculature actuelle, mais je ne refuserai pas une petite prise de masse sèche non plus. Ma question est la suivante. J'ai l'occasion dans ma journée de travail de faire une ou deux séries longues de 50 à 100 reps, d'élévation latérale avec haltères ou de mouvements de l'oiseau. Ça m'arrive quand j'ai 4 à 5 minutes d'avance sur un rendez-vous ou qu'un patient me pose un lapin au dernier moment. Est-ce utile, néfaste à la récupération? Si ça tombe un mercredi, je me suis entraîné à jeun le matin ou un lundi qui suit 2 jours de séance. Mon ressenti est que sur le fond, ça ne doit pas apporter grand-chose. Par contre, j'aime bien cette sensation de congestion, voire de brûlure en fin de série. Ça me donne une sorte de coup de boost pour les rendez-vous suivants. Merci pour ton avis. Déjà, première réponse, j'imagine que tu as un point faible épaule pour faire des séries longues comme ça. Donc si tu as un point faible épaule, ça peut être une solution. Mais je ne sais pas si c'est réellement un point faible ou en tout cas, si ça l'est, tu commences à être sur la bonne voie. Pourquoi ? Parce qu'il y a congestion. Tu m'as mis dans ta question qu'il y avait de la congestion. Donc qui dit congestion dit plutôt un bon recrutement. Donc ça veut dire que tu es plutôt sur la bonne voie pour solutionner ton point faible épaule si tu en as un. En tout cas, je ne vois pas pour quelle autre raison on ferait des séries de 50 à 100 reps sans avoir de point faible sur les épaules. Donc déjà, tu es plutôt sur la bonne voie si c'est un point faible. Après, on va parler de la question du timing et tout. Est-ce que c'est néfaste à la récupération ? Non. Sauf si tu as fait les épaules le matin. Évidemment, si tu as fait une séance d'épaule au petit matin, à jeun, et que tu te retapes dessus dans la journée, là, c'est plutôt contre-productif dans le sens où ta récupération, elle est dans une phase aiguë à ce moment-là. Donc, c'est la première partie de la récupération. Et donc, toi, si tu viens retaper dessus à ce moment-là, c'est pas forcément intéressant. Par contre, le lendemain, ou 2 jours après, ça devient intéressant dans le sens où justement la plus grosse partie de ta récupération a été bien faite, t'as déjà eu une nuit de sommeil entre deux, donc là ça peut être intéressant. On n'est pas sur des mouvements hyper traumatisants et très lourds, donc du coup ça peut justement non seulement t'aider à récupérer plus vite, mais aussi travailler à mieux ressentir ton muscle qui sera un peu courbaturé, donc du coup tu ressentiras mieux sur des séries longues. Après, idéalement, en troisième point, le faire les jours off pour équilibrer ton activité physique sur la semaine. Et oui, parce que les jours où tu t'entraînes pas, ça t'apporterait un petit peu de dépenses physiques, en plus. J'ai noté que tu fais à peu près un peu moins d'une quinzaine de séances par mois. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ton cardio, donc 3 à 4 fois par mois, tu vires de la muscu pour mettre ça. Donc du coup, tu es à moins de 15 séances par mois, soit moins de 50% du temps, tu es sportif en fait. Moi, j'aime bien, tu vois, regarder les choses comme ça. Quand on fait à peu près 30 jours par mois, si tu fais 15 séances par mois ou moins, ça veut dire que 50% du temps ou moins, tu t'entraînes. Donc ça veut dire que plus de 50% du temps, tu es sédentaire. Tu es pas sportif, entre guillemets. Donc du coup, de voir à augmenter ce ratio-là. Donc comment on fait pour augmenter ce ratio ? Eh ben, on meuble les jours où on ne s'entraîne pas. Donc moi, je vais privilégier les séances de points faibles, donc en série longue, comme tu fais là, 4 à 5 minutes, les jours où je ne fais pas de sport, donc où il n'y a pas de cardio, où il n'y a pas de muscu. Et de le faire, au lieu de le faire 4 à 5 minutes, soit je me prends un moment durant la pause déjeuner ou avant de commencer le travail ou après, en série longue. Et si tu as un rendez-vous qui s'annule, l'avantage c'est qu'un rendez-vous qui s'annule, souvent c'est 15, 20, 30 minutes que tu as devant toi. Puisque c'est à peu près la durée des séances de kiné, selon les kinés. Alors ostéo, ça va plus être 45 minutes, 1 heure. Un kiné, souvent en 20 minutes, une demi-heure, il a bouclé le patient. parfois même en moins de temps, mais bon, souvent c'est à peu près le timing. Donc si tu as ça devant toi comme temps, ça peut être intéressant, au lieu de faire 4 à 5 minutes, d'essayer de taper sur 15 minutes. Donc de faire plusieurs séries pour arriver à 15 minutes. Et ça, l'avantage, c'est que tu pourrais le faire par exemple deux fois dans ta journée. Et en faisant deux fois dans ta journée, tu t'accorderais d'avoir 30 minutes d'intensité, on va dire modérée, les jours où tu n'as pas de muscu et les jours où tu n'as pas de cardio. Ce qui te permettrait de descendre progressivement ton taux de gras, parce que 20% de masse grasse, moi je pense que pour un homme qui veut être en forme, eh ben, il y a à peu près, on va dire, entre 6 et 8% de gras en trop. Donc je te recommanderais plutôt de baisser ce chiffre-là plutôt que de tenter de prendre de la masse musculaire, bien que faire le programme que tu m'as dit, là, le hard reset, est très bien, puisque justement, vu que toi, tu t'entraînes pas très souvent en muscu, 3 fois par semaine, mais c'est pas tout le temps, puisqu'il y a des fois où tu fais du cardio, donc tu vas t'entraîner que 2 fois par semaine en muscu, c'est bien d'avoir un entraînement qui est très intense, avec des charges lourdes et tout, puisque justement, tu t'entraînes peu fréquemment. Ensuite, tu m'as mis au niveau de la récupération et tout. Donc, en fait, toi, tu as un métier actif si tu fais partie des kinés qui pratiquent les thérapies très manuelles. C'est-à-dire que tu mets pas tes clients sous complex ou sur des plateformes vibrantes et tu te casses dans le bureau assis à gérer ton planning. Si tu fais ça, t'es passif, donc passif ou sédentaire. Si t'es plutôt actif dans le sens où tu manipules, où tu forces un petit peu à chaque fois, où t'es en mouvement, t'as plutôt un métier actif et c'est plutôt bien parce que justement ça va dans le sens de ton objectif. Moi je te recommanderais plutôt de te baser sur perdre ton gras. Donc tu m'as pas parlé une seule fois dans ton email là de la nutrition que tu avais, donc de l'approche alimentaire. Je pense que là évidemment il y a un rôle énorme pour ça. Donc si tu t'y es pas intéressé, comme je reprends la première partie du podcast, c'est certainement un point faible pour toi si tu ne t'y es pas intéressé. Donc une nutrition adaptée à la perte de graisse. Donc le mon ouvrage Shred sur la sèche, le programme de 6 semaines est très bien pour ça. Sinon, t'as plein de formations si t'es VIP pour ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ton approche de 4 à 5 minutes sur des séries, 2 séries longues, 50 à 100 reps, c'est très bien. C'est très bien. Ça, tu sais, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un muscle, plus il est sollicité régulièrement et intelligemment, c'est-à-dire pas faire des maxi tous les jours, mais des séances où on va avoir un travail lourd, des séances où on va avoir un travail léger, enfin une certaine intelligence d'entraînement derrière tout ça. J'espère ne pas avoir besoin de trop m'exprimer là-dessus parce que les auditeurs qui m'écoutent savent de quoi je parle, mais on atteint une meilleure qualité musculaire plus rapidement. Je suis pas de l'école où il faut faire du très lourd ponctuellement, c'est-à-dire juste quelques fois par semaine et puis après on attend la semaine d'après pour s'entraîner. Moi personnellement, j'ai en assez peu de temps réussi à acquérir une entre guillemets qualité musculaire. J'aime pas parce que ça fait un peu vantard, mais ça je le mets sur la raison que je me suis entraîné fréquemment. Et quand je dis intelligemment, c'est-à-dire que j'ai eu des entraînements lourds et des entraînements légers, mais j'ai fait les choses fréquemment. Parfois 2 fois par jour et tout, 2 entraînements par jour. Et je pense, et j'en suis convaincu, que solliciter régulièrement son muscle, on atteint plus rapidement une bonne densité, une bonne qualité musculaire. Le problème, c'est que ceux qui me dénigrent sur ce sujet-là sont des personnes qui n'ont pas testé. Moi, j'ai testé les deux. J'ai testé de faire un muscle par semaine pendant des années et j'ai testé une approche différente où j'avais un entraînement beaucoup plus élevé en volume, mais beaucoup plus intelligent en intensité. C'est-à-dire que j'avais du travail lourd, du travail modéré, du travail léger. Et j'ai eu un bien meilleur physique avec la deuxième solution. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas l'avoir avec une autre solution. Ça veut dire que, voilà, moi, ce que je peux t'amener comme indication sur ce sujet-là. Donc, je pars du principe que moi, ayant été en surpoids, etc., j'ai gagné à faire plus de fréquences de travail, notamment sur les muscles qui avaient du mal à être secs, qui avaient du mal à être définis. Ça m'a apporté du plus. Donc, si toi, c'est ton objectif, à apporter de la fréquence d'entraînement, une fréquence d'entraînement plus élevée, et c'est ce que je te recommande, d'ailleurs, d'avoir un peu plus de muscu et peut-être un peu moins de cardio, ou du moins ton cardio un petit peu plus court et plus régulier, et d'avoir quand même un rythme de vie sportif plus élevé avec un ratio muscu plus important. C'est ce qui t'aidera le plus à perdre du gras. Et d'inclure aussi périodiquement, au lieu de faire des longues séances de cardio comme ça, du fractionné, ce qui te prendra moins de temps. Par exemple, au cabinet, tu te prends une petite corde à sauter ou quoi, et tu fais un peu de corde. Mais pour revenir à ta question là, parce qu'on n'est pas vraiment dans le thème de la question, pour tes séries de 50 à 100 reps, deux séries longues comme ça ponctuellement, c'est toujours bon à prendre. Mais évidemment, c'est mieux d'en faire un peu plus, c'est-à-dire d'au moins avoir 15 minutes, quoi. 15 minutes, c'est bien quand ça n'est pas une séance pure, mais c'est un bon petit rappel. En 15 minutes, tu peux faire un bon petit rappel si tu tapes sur de la longue série, quoi. Voilà, mais sache qu'en tout cas, si tu as congestion et brûlure, ça veut dire que tu arrives plutôt bien à localiser le muscle que tu veux développer. Donc, si c'était un point faible, tu es sur la bonne voie. Si ça l'est encore, tu es aussi sur la bonne voie. Et si c'est un point fort, bah, je sais pas pourquoi tu fais de la série longue dessus. Mieux vaut sur un muscle faible pour essayer justement d'en profiter. Voilà ma réponse à ta question. Si vous en avez une à me poser, vous avez les liens dans les notes de l'émission qui s'appelle « Posez votre question ici ». C'est un formulaire anonyme. Vous posez la question de votre choix sur moi, sur vous, sur, je sais pas, la situation actuelle. C'est le but, que ce soit anonyme. Et donc, j'y répondrai avec plaisir dans les podcasts suivants. Pour rappel, si vous voulez démarrer une diète sans viande, et d'ailleurs, si toi qui m'écoutes, le kiné, tu as envie de démarrer une diète un petit peu plus clean pour ce début d'année, va voir le lien qui s'appelle « Régime sans viande, la diète complète pour sportifs », parce que c'est une diète qui est basée sur la perte de graisse, mais aussi sur le maintien de la masse musculaire, etc. Donc du coup, ça peut être super cohérent pour ce début d'année, super cohérent pour toutes les personnes qui justement ne savent pas trop où aller, jeûne intermittent, diète cétogène, etc. Ben là, ça vient un petit peu trancher. C'est une diète qui n'est pas du tout carencée en quoi que ce soit. Donc il y a des glucides, il y a des lipides, il y a des protéines animales, végétales, enfin de tout, mais il n'y a pas de viande. Donc du coup, allez jeter un œil et donc voilà. Je m'arrête ici pour ce podcast, il a duré assez longtemps. Merci à tous et encore une fois, très bonne année.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.